Le Seigneur me met à cœur la lecture de deux passages, à savoir en Actes 17 et en 1 Thessaloniciens 1. Et ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et selon sa coutume, Paul entra vers eux et pendant trois sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas et une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu et des femmes de premier rang en assez grand nombre. Premier épître aux Thessaloniciens, premier chapitre. Paul et Sylvain et Timothée à l'assemblée des Thessaloniciens, en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père, sachant, frères aimés de Dieu, votre élection. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude d'assurance. Ainsi que vous savez, quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnée de grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu. Votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Chers amis, ma pensée n'est pas que notre regard s'arrête sur les gens de Thessalonique, pas du tout. La pensée qui est dans mon cœur, dans mon esprit ce soir, à la suite de la parole qui a été ouverte dans ce jour plusieurs fois, parole qui était pour nos cœurs et nos consciences, ma pensée, c'est de souligner dans ces instants, avec le secours du Seigneur, ce qu'a été l'entrée de la parole dans le cœur des Thessaloniciens, cette parole qui illumine, selon le passage du psaume, dire un mot des résultats de cette parole dans le cœur, résultats qui sont à la gloire de Dieu. Une remarque s'impose d'emblée, c'est que ces Thessaloniciens avaient entendu l'apôtre et son compagnon durant trois sabbats, Alors que pour les amis de mon âge approchant et qui ont pris à cœur le rassemblement autour de Jésus, ce sont des milliers de réunions auxquelles nous avons assisté, voire participé. Eux avaient entendu l'apôtre sur les souffrances de Christ, sur sa mort, sur sa résurrection, durant trois sabbats. Et dans le premier chapitre de cette première épître, l'apôtre et ses compagnons se plaisent à souligner, oh, je le répète, ce qu'a été l'entrée de cette parole dans le cœur. Combien il est à désirer que les choses rappelées aujourd'hui même restent comme une gravure sur nos cœurs, pour la gloire du Seigneur, à la gloire de celui qui a souffert. Et comme le dit Pierre, celui qui a porté lui-même en son corps sur le bois nos péchés, et puissions-nous dire chacun, et j'aime à penser que c'est le privilège et la grâce de chacun, puissions-nous dire chacun dans ce local, en vérité, en sincérité devant Dieu, oui, il a porté mes péchés. Pour sceller ma paix, Jésus s'est présenté pour porter mes forfaits. Certainement, lui a été frappé, il a été frappé pour moi. Bien-aimé, y aurait-il dans nos familles, y aurait-il parmi nous quelqu'un qui ne se soit jamais arrêté devant le Sauveur élevé sur la croix? Quelqu'un qui ne se soit jamais arrêté à l'ouïe de cet appel, viens à moi, venez à moi. Ah, les appels du Sauveur sont à l'impératif, il faut nous en souvenir. Dans le livre d'Ésaïe, tournez-vous vers moi. Dans votre condition d'enfant d'Adam, vous portez vos pas vers le jugement. Tournez-vous vers moi. C'est cela la conversion, c'est ce demi-tour. Et comme le disait un frère de votre pays, c'est un renversement total. Celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur porte alors ses pas vers la maison du Père et non plus vers le jugement. Le danger de notre temps, c'est de savoir ces choses. Un cher frère le rappelait après-midi. Un christianisme intellectuel, un christianisme de la tête, alors que le Seigneur veut que nos cœurs soient engagés, qu'il y ait ce contact du cœur avec lui. Eh bien, les Thessaloniciens avaient écouté et leur cœur s'était ouvert. Et comme nous le verrons dans ce premier chapitre de la première épître, ils avaient reçu la parole. L'introduction de ce premier chapitre des Thessaloniciens est remarquable. Et nos cœurs ne seraient-ils pas touchés en lisant ces mots, Paul et Sylvain et Timothée, à l'assemblée des Thessaloniciens, en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah, quand il est question de l'assemblée, en Dieu le Père, il y a des expressions dans la parole de Dieu qui doivent retenir notre attention, qui doivent toucher nos cœurs, qui doivent faire vibrer nos cœurs de reconnaissance et d'adoration. L'assemblée des Thessaloniciens en Dieu le Père. En acte 20, cette assemblée, il l'a acquise au prix du sang de son Fils. Voilà le prix payé Il faut nous souvenir de ce prix payé. Les Corinthiens qui se prévalaient d'une certaine sagesse charnelle, les Corinthiens qui étaient très à l'aise probablement dans les choses matérielles, doivent par deux fois recevoir ce mot de l'apôtre « Souvenez-vous que vous avez été achetés à prix ». Il a acquis cette assemblée au prix du sang de son Fils. Ah, chers amis, arrêtons-nous une fois de plus. Une fois encore, nous nous y arrêterons éternellement. Arrêtons-nous devant le prix payé. Dans l'Épître aux Éphésiens, on a remarqué souvent qu'il était question des richesses de la grâce, tout d'abord, des immenses richesses de la grâce. Ensuite, et dans le chapitre 3e, quand il est question de l'Église ou assemblée, mystère caché dès les siècles en Dieu, ah, il y a une expression à retenir, les richesses insondables du Christ, Éphésiens 3. Est-ce que cela ne touche pas nos cœurs? Mystère caché dès les siècles en Dieu, richesses insondables du Christ, colonne et soutien de la vérité dans les épîtres à Timothée, l'assemblée des Thessaloniciens, en Dieu le Père, et en Jésus-Christ, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah, quand il est question de l'assemblée, sous le nom du Seigneur, chacun, bien sûr, s'arrête devant Éphésiens 5. Il l'a aimé. Il s'est livré lui-même pour elle, lui-même. Il l'a nourrie, il l'a chérie, et il va se la présenter tantôt, peut-être ce soir, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et il est écrit à propos de cette présentation encore. Lui-même, il n'enverra pas un ange, il n'enverra pas un archange, c'est lui-même qui a aimé l'assemblée, c'est lui-même qui s'est livré pour elle, et c'est lui qui, dans ce jour, l'a nourrie et l'a chérie. Il l'a fait dans le passé, il le fera demain si nous sommes là, mais aujourd'hui, d'une façon particulière, chers amis, le Seigneur nous nourrit. Il nous abreuve au fleuve des délices de Dieu. À nous d'avoir faim, à nous d'avoir soif. Et l'introduction de cet épître, grâce et paix à vous. Ah, nous avons besoin de la grâce pour notre salut, pour notre délivrance, bien sûr. Mais, chers amis, comme croyants, dans la vie de tous les jours, dans les étapes de la route, n'avons-nous pas besoin de cette grâce qui est apparue à tous les hommes et qui apporte le salut, selon Tite 2,11, mais cette grâce qui enseigne. Et elle enseigne les trois choses que vous savez dans cet épître à Tite. Un cher frère disait, impossible de faire un pas à la gloire du Seigneur sans le secours de la grâce. Grâce et paix. Quel bonheur de connaître la paix de la conscience, bien sûr. Mais quel bonheur de réaliser dans la course chrétienne ce qu'est la paix dans les circonstances, La paix dont le Seigneur lui-même jouissait avec le Père. Alors qu'il écrit dans le chapitre des Consolations, Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Grâce et paix à vous. » Et alors, au début de l'alinéa qui suit, nous avons cette action de grâce de l'apôtre et de ses compagnons en regard de ce que la parole de Dieu a produit dans le cœur des Thessaloniciens. Est-ce que dans mon village, dans mon entourage, des frères et des sœurs rendent grâce au Seigneur en constatant ce que sa parole a produit dans mon cœur? C'est la question que je dois me poser, moi le premier, bien sûr. Mais remarquons cela, chers amis. Une action de grâce monte à Dieu en regard de l'œuvre de foi des Thessaloniciens. Et quand on parle d'une œuvre, ce n'est point quelque chose d'accidentel, de passager. Comme le disait un cher ami, c'est un tableau qui porte une signature. Une œuvre de foi. Après trois sabbats, un travail d'amour, délivrés de leur misère, en chemin vers la maison du Père, les Thessaloniciens ne supportaient pas qu'autour d'eux il y ait encore des créatures qui portaient leur pas vers le jugement. Et il y avait un travail d'amour. Ils étaient, ce que l'apôtre dira dans 2 Corinthiens 5, des ambassadeurs pour Christ. Le suis-je moi-même? Le sommes-nous, frères et sœurs, dans le cadre qui nous est propre? Le Seigneur ne nous demande pas des éclats, mais dans les choses qui nous concernent, personnellement, dans nos familles, dans l'assemblée locale, dans nos contacts. Avons-nous à cœur ce travail d'amour? Avons-nous à cœur les intérêts du Seigneur? Ce qui touche à son œuvre, à sa gloire, travail d'amour, patience d'espérance. Vous savez bien que ces épîtres aux Thessaloniciens sont imprégnés par cette pensée du retour du Seigneur. Tantôt pour enlever l'Église, tantôt pour la seconde phase de ce retour, apparition en gloire, patience d'espérance. Ce chapitre est tellement riche que nous ne pouvons pas nous arrêter sur chaque chose, mais j'aimerais dire un mot du verset 5, que notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint, dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. C'est un passage qui m'a toujours fait réfléchir devant Dieu. Engagé par pure grâce dans le service pour Christ, j'ai besoin de cette conviction personnelle. J'ai besoin d'être au bénéfice de cette conduite de l'esprit. Ce passage est d'importance, et d'importance pour nous tous, bien-aimés. Nous avons à montrer, enseigner comme nous le sommes, ce qu'est une conviction personnelle. Ce qu'est une assurance personnelle. Puissions-nous, en face de ceux qui nous entourent, dire avec le patriarche, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu peux tout. Je sais, dit Ecclésiaste 8, verset 12, que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent sa face. Et tant d'autres, je sais, Il faudrait citer Jérémie, il faudrait citer Romains 7, il faudrait citer Romains 8, je suis assuré que... Et il faudrait citer 1 Jean 5, avec ce que nos frères ont appelé le langage technique de la foi. Nous savons, nous avons. Eh bien, l'apôtre rappelle aux Thessaloniciens que la parole annoncée, il a été en puissance dans l'Esprit Saint, dans une grande plénitude d'assurance. Quel enseignement pour tous ceux qui sont appelés à dire quelque chose de la part du Seigneur. Ils sont devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Quelle pierre de touche devant nous, ayant reçu la parole. Nous est-il arrivé, chers amis, de nous pencher sur ces passages où il est question de recevoir la parole? Ils sont très sérieux, ils sont précieux aussi. À tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean 1, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu veuille que tous nous l'ayons reçu. Mais dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, et je touche là un passage combien solennel, après l'enlèvement de l'Église, Dieu envoie une énergie d'erreur pour que les hommes croient aux mensonges. Et qu'est-il écrit? Une raison est donnée, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Oh, chers amis, soyons des ambassadeurs pour Christ. Ils sont nombreux autour de nous, ceux qui n'ont pas reçu. Eh bien, les Thessaloniciens avait reçu la parole. Ce verbe recevoir est à garder. Il est si important. Et puis, un autre verbe est employé dans le verset 8e. La parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu. Votre foi envers Dieu s'est répandue. Nous n'avons pas besoin d'en rien dire. La parole du Seigneur a retenti. Ah, si elle retentissait dans nos familles, si le Seigneur ce soir écrivait notre nom contre les murs de ce local, pourrait-il écrire que chez moi, la parole a été reçue et que chez moi, elle a retenti. N'y a-t-il pas, bien aimé, un appel particulier de la part du Seigneur dans une telle portion, dans un tel passage? Et en regard de ce qui nous a occupés dans cette journée, un appel à aimer, un appel à servir, un appel à suivre Jésus, un appel à l'attendre du ciel, comme s'il venait ce soir, maintenant. La parole reçue, la parole qui retentit. À la fin de ce chapitre, je passe rapidement. Il faut nous arrêter sur ces expressions. Eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Les Thessaloniciens s'étaient tournés. Il y avait eu cette conversion. Il y avait une œuvre de foi, il y avait un travail d'amour, il y avait une patience d'espérance. Ils étaient les imitateurs de l'apôtre et du Seigneur. Et à la fin de ce chapitre, il est précisé encore qu'il s'était tourné pour servir. Ce verbe est d'importance, chers amis. Il y aurait beaucoup de passages à rappeler en regard de ce verbe servir. Je n'en rappellerai que quatre qui me viennent maintenant à l'esprit et au cœur. Samuel, dans son premier livre et au chapitre 12e et dans les versets 20 et 24, s'adresse au peuple et il s'adresse à l'impératif. Servez l'Éternel de tout votre cœur, de tout votre cœur. Un de nos frères a rappelé aujourd'hui que le Seigneur ne voulait pas des cœurs partagés. On ne suit pas le Seigneur avec un pied et avec l'autre pied, marcher avec le monde. Et cette parole du Seigneur par l'esprit prophétique en Ésaïe 50 est très sérieuse. Je ne me suis pas retiré en arrière. Est-ce que quelqu'un pourrait se retirer en arrière? Est-ce que quelqu'un pourrait ne pas s'engager de tout son cœur pour celui qui est allé jusqu'à la mort et à la mort même de la croix? Servez l'Éternel de tout votre cœur. Et le passage est si important qu'il est rappelé dans ce chapitre de Samuel. Il en est un second à l'impératif, lui aussi, en rapport avec ce verbe servir. C'est le passage du psaume 2, dans son verset 11, « Servez l'Éternel ». Avec crainte, il y a une révérence, il y a un respect, il y a une façon de servir le Seigneur. C'est celui qui s'est acquis tous les droits sur nos cœurs, nous le comprenons. Dans le psaume 100 et au verset 2, si ma mémoire est fidèle, servez l'Éternel avec joie. Quelle grâce, chers amis, de pouvoir servir le Seigneur avec joie, non pas seulement dans le sens d'un devoir, mais avec joie. Et ne devons-nous pas reconnaître que souvent nous manquons de joie? Ceux qui nous entourent ne voient pas sur nous, sur nos visages, cette joie qui pourtant devrait paraître. Moïse, qui avait parlé avec l'Éternel, descend de la montagne, et vous savez ce que dit le passage d'Exode 34. Ah, chers amis, servons le Seigneur avec joie, avec reconnaissance. Lui qui est le vrai, le divin serviteur, lui qui est allé jusqu'à la mort pour nous, ne mérite-t-il pas d'être servi avec joie? Et ce service avec joie comprend tant de choses. Chacun peut, dans le secret de son cœur, énumérer les choses qui le touche de près en regard de ce passage. Comment sommes-nous venus ce soir chez le Seigneur? Sommes-nous venus, comme le dit le psaume 122, « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel » ou sommes-nous venus seulement par devoir? » La joie de la présence du Seigneur, l'appel du Seigneur pour rassembler les siens. Quand il dit en Ésaïe 26, par exemple, au verset 20, « Viens, mon peuple, Entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi. Je n'enlève rien à ce qui est de l'avenir, à ce qui est prophétique dans le passage, mais pratiquement, chaque fois que le Seigneur nous rassemble autour de lui, chez lui, avec lui, venons avec joie. Les disciples dont, est-il écrit en Jean 20, se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Servez l'Éternel avec joie. Nous pourrions nous étendre beaucoup sur ce passage. Et il en est un quatrième que j'aimerais citer aussi de mémoire. C'est celui de l'apôtre en acte 20. Cet homme qui, en acte 8, verset 3, ravageait l'assemblée. Cet homme qui faisait tout le mal possible en acte 20. Et au verset 19, il écrit, servant le Seigneur en toute humilité. Ah, nous avons été exhortés dans ce jour à l'humilité, contrastant avec ce que dit Laodicée. Et si j'ai affaire avec celui qui a été élevé à Golgotha sur une croix à cause de moi, je ne m'enorgueillirai pas. Pensons à cela, chers amis. Servant le Seigneur en toute humilité. Saul, sur le chemin de Damas, rencontre le Seigneur. Et qu'est-il écrit de lui? Un des premiers résultats de cette rencontre, nous avons trois mots dans ce chapitre 9 du livre des Actes. Voici, il prie. Ah, si j'ai affaire, je le répète, avec celui qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour ma justification, selon le dernier verset de Romains 4, celui qui est élevé dans la gloire maintenant, je ne me glorifierai pas. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec joie. Servant le Seigneur en toute humilité. Et il y a un deuxième verbe à la fin de ce chapitre premier. Pour servir et attendre. On parle beaucoup du retour du Seigneur dans nos familles, dans l'Assemblée. Et Dieu veuille que nous en parlions beaucoup. Mais quelquefois, nous parlons beaucoup moins de la façon d'attendre. Tout jeune, j'avais entendu un frère méditer précisément sur cette façon d'attendre. Et cela est resté sur mon cœur. Il nous citait tout d'abord un passage de Matthieu 25, le cri de minuit, voici l'époux. Et vous vous souvenez que ce matin, précisément, premier cantique indiqué, voici l'époux, cantique 27 du recueil, 180. Et alors, il y a un impératif dans cette pensée de la façon d'attendre. Il est dit « sortez à sa rencontre ». Comme si le Seigneur nous disait « vous allez montrer maintenant par votre marche que vous m'attendez. Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Et ensuite, ce frère nous citait la fin de Marc 13, qu'il soit question du retour pour enlever l'Église ou pour l'apparition en gloire. Nous avons en tout cas à la fin de Marc 13 trois fois cet impératif veiller. Autrement dit, le Seigneur m'appelle à être une sentinelle. Suis-je cette sentinelle qui, selon Ésaïe 21, peut dire aux moqueurs d'Édom, le matin vient, mais aussi la nuit. Quelle grâce, chers amis, de pouvoir dire aux croyants, à celui qui a mis sa confiance dans le seul nom donné sous le ciel, par lequel il nous faille être sauvés, quelle grâce que de pouvoir lui dire le matin vient, un matin sans nuages, selon 2 Samuel 23, qui touche bien sûr au règne millénaire, mais pour la foi du croyant, ce matin sans nuages va plus loin encore. Le matin vient, mais sentinelle, qui dit au raisonneur, à l'indifférent, à l'incrédule, à celui qui n'a qu'une forme, mais qui n'a pas la vie, la nuit vient. Et nous avons dit un mot de cette nuit-là, où les hommes croiront au mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Un troisième passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Le maître a laissé des mines, des talents. Appelons les choses selon qu'elles nous concernent chacun. Et que dit-il à ceux auxquels il a donné tant de choses trafiquées jusqu'à ce que je vienne? Le Seigneur nous a beaucoup donné dans nos familles, dans l'assemblée. Il a pris soin de nous. Et nos frères, aujourd'hui, se sont arrêtés longuement sur cette pensée. Prenons très à cœur, chers amis, le fait que nous avons reçu et grâce sur grâce. Prenons-le très à cœur, je le répète, trafiquer jusqu'à ce que je vienne. Autrement dit, le Seigneur nous demande de faire valoir ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié. L'instruction est répandue dans nos pays, dans ce pays d'une façon toute particulière. Nous jouissons d'un enseignement remarquable. La parole est dans nos mains. Des frères, nos devanciers, se sont penchés sur cette parole. Ils ont laissé ce que vous savez à notre disposition. Cette parole a été ouverte dans nos familles. Elle est ouverte encore. Faites valoir, trafiquez. Jusqu'à ce que je vienne. J'aimerais que ce mot reste comme une gravure, comme un souvenir sur nos cœurs à la fin de ce jour où le Seigneur nous a tant donné. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas là un appel de sa part, un appel à chacun? C'est personnel, trafic jusqu'à ce que je vienne. Et enfin, en impératif, dans le chapitre des consolations que nous avons déjà touché par un très court passage, le Seigneur va quitter les siens. Il va parler de la maison du Père où il va préparer des places. Il dit aux siens qu'il reviendra, qu'il les prendra auprès de lui. Et c'est là, tout au début de Jean 14, que nous avons cet impératif, croyez, croyez. Chers amis, la façon d'attendre le Seigneur. Sortez à sa rencontre, Matthieu 25. Veillez, Marc 13. Trafiquez, Luc 19. Croyez, Jean 14. Il s'était tourné des idoles vers Dieu pour servir et pour attendre celui qui vient du ciel. C'est celui qui lit dans mon cœur. Mais tout à la fin du livre, un dernier appel, un dernier mot, c'est l'époux qui s'adresse à l'épouse et qui lui dit « Je viens bientôt ». Chers amis, portons notre regard en haut et en avant vers celui qui vient bientôt. Aimons-le, suivons-le, servons-le en l'attendant du ciel. Il est digne, car il a été immolé et il nous a achetés, vous et moi, au prix que vous savez. Au prix que vous savez.